Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Pas assez rentable quand le restaurant universitaire ne rouvre pas après le Covid, faute de prestataires intéressés. Ça se passe en Seine-Saint-Denis, 600 étudiants sans solution, beaucoup n'ont pas d'autres moyens pour se nourrir correctement. Reportage dès le début de ce journal. Deux semaines après des révélations choc pour l'Église de France, le pape François reçoit Jean Castex ce matin. Les abus sexuels, le secret de la confession, il en sera forcément question lors de cette audience privée. Nous sommes sur place. Dans ce journal aussi, le procès du meurtre d'un jogger noir qui a marqué les États-Unis, Facebook qui choisit l'Europe pour embaucher à tour de bras, et les Jeux Olympiques de Paris toujours à la recherche de sponsors.
Au micro de Léa Salamé dans 20 minutes, c'est aujourd'hui Pauline Laveau. Elle est l'auteur d'un premier roman, 9 mois, 9 jours, chez Fayard.
France Inter.
Ils sont revenus physiquement à l'université, Alexis, mais n'en ont pas fini avec la précarité.
Depuis la rentrée, les étudiants continuent de se presser dans les files d'attente pour la distribution alimentaire. Et dans ce contexte fragile, certains ne peuvent même plus compter sur le Resto U à moindre coût. À Montreuil, en Seine-Saint-Denis, les 600 étudiants de l'IUT n'ont plus de cantine depuis plus d'un an maintenant. Fermé au début de la crise sanitaire, le restaurant universitaire n'a jamais rouvert, y compris en cette rentrée. L'université Paris 8 ne trouve pas de prestataire proposant des tarifs abordables. Même le CROUS ne veut pas s'en charger. Les jeunes doivent donc se débrouiller, à Gérard Mohamed.
Les jours passent à l'IUT et les pauses déj ont la même saveur.
Ce midi, c'était pizza réchauffée venue de la maison dans le micro-ondes.
Sandwich triangle saucisson. Bah, tous les jours, je mange un sandwich blanc de poulet et mental.
J'en avais marre.
Un peu beaucoup. Ouais.
Marre aussi de ne plus avoir accès au réfectoire. Des étudiants se retrouvent à manger debout, dehors ou assis dans les couloirs. Et puis, il y a le budget qui explose pour Adam.
Par exemple, aujourd'hui, parti au Franprix, je me suis pris un sandwich Sodebo, basique, une petite bouteille de coca et j'ai arrangé un ami, je lui ai pris sa boisson. Ça m'est revenu à 6 euros.
Au resto, vous auriez payé combien ?
Sachant que je suis boursier, ça m'aurait venu qu'à 1 euro.
En fait, aucune entreprise privée n'est intéressée pour gérer le resto de l'IUT, pas assez rentable, ni le CROUS qui se concentre depuis quelques années sur les plus grands campus. Une fausse bonne idée, selon Annick Allègre, la présidente de Paris 8.
On comprend qu'on ne travaille pas à perte, même dans le public. Hein. Le public doit faire attention à ses finances, mais il n'empêche qu'il y a une rupture d'égalité qui est quand même très regrettable.
Et scandaleuse, surtout pour le jeune PEC.
Nous, les étudiants, techniquement, en fait, on est juste un marché, et si on n'est pas un marché rentable, personne ne s'occupe de nous. Donc il n'y a pas le CROUS qui s'occupe de nous, il n'y a pas les structures privées parce qu'on n'est pas assez rentable. Donc maintenant on fait quoi ?
Et c'est encore moins acceptable pour ces jeunes de Montreuil, surtout quand on sait à quel point la précarité alimentaire s'est accentuée chez les étudiants avec la crise sanitaire.
Et contacté, le CROUS est catégorique, il ne rouvrira pas de Resto U à Montreuil, mais propose à la place peut-être un distributeur de plats à réchauffer. C'était un reportage signé Agera Mohamed, France Bleu Paris. Des études d'opinion en pagaille sur les réformes, mais aussi la popularité de Nicolas Sarkozy ou encore la grossesse de Rachida Dati. L'affaire des sondages de l'Élysée arrive devant la justice 10 ans après la présidence Sarkozy. 5 proches de l'ancien chef de l'État comparaissent à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Parmi eux, Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée à l'époque, ou encore Patrick Buisson, l'ancien conseiller de l'ombre. Les juges vont se pencher pendant un mois sur ces multiples achats de sondages par la présidence entre 2007 et 2012. Il soupçonne notamment favoritisme et détournement de fonds publics. Le détail est à retrouver dès maintenant sur franceinter.fr. La justice et ses mots MAUX au cœur d'une grande consultation nationale que lance Emmanuel Macron aujourd'hui à Poitiers. Les états généraux de la justice, ils vont durer 4 mois. On y revient en détail à 8h. Ces travaux seront orchestrés par une commission indépendante présidée par Jean-Marc Sauvé.
Jean-Marc Sauvé qui vient tout juste de diriger aussi la commission sur les abus sexuels dans l'Église.
15 jours après ces révélations fracassantes et la polémique qui s'en est suivie sur le secret de la confession, le Premier ministre est au Vatican ce matin. Jean Castex doit y être reçu en audience privée par le pape François. Une visite prévue de longue date, mais qui forcément prend une toute autre dimension vu le contexte pour les catholiques français. À Rome, Bruce de Galzin.
Au Vatican comme à Matignon, on sait très bien que ce n'est pas Jean Castex et François qui vont régler la question du secret de la confession. D'autant plus que les positions sont diamétralement opposées. C'est à Matignon, plus qu'à l'Élysée, que l'on a été particulièrement remonté après la sortie du président des évêques de France. Au Vatican, sa convocation a été très mal perçue. La République laïque ne comprend pas ce secret, nous dit-on. Le lever serait la porte ouverte à toutes les ingérences. À Matignon, on estime que c'est aux évêques de France de trouver des solutions désormais. Dans l'Église, à Rome, comme en France, certains s'attendent à des décisions très fortes et symboliquement marquantes, comme la démission du président des évêques ou d'évêques qui auraient couvert des abus et qui sont encore en fonction. Le Vatican non plus ne veut pas en rester là. Le pape devrait même recevoir Jean-Marc Sauvé prochainement. Une visite de François en France n'est pas non plus exclue par le Vatican. Le pape ne peut pas continuer à ignorer la France, nous dit-on à Rome. Jean Castex renouvellera l'invitation, mais si cela se fait, ce sera après la présidentielle. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Et le Premier ministre arrive au Vatican avec des cadeaux. Il va offrir au pape un maillot dédicacé de Messi, le joueur du PSG, argentin comme le souverain pontife, mais aussi une première édition illustrée de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Un espion au service de la Russie travaillait bien au sein même du cabinet de Jean-Yves Le Drian quand il était ministre de la Défense sous François Hollande. L'ancien patron de la DGSE, Bernard Bajolet, confirme l'information dans un documentaire diffusé sur France 5. À l'époque, c'est Mediapart qui avait révélé l'existence de cette taupe recrutée par le renseignement russe. Avec la mort de George Floyd, c'est l'une des autres affaires qui a provoqué les grandes manifestations antiracistes l'an dernier aux États-Unis. Le meurtre d'un jogger noir en Géorgie en février 2020. Emaud Arbery avait été poursuivi par trois hommes blancs en pleine rue avant d'être abattu par l'un d'entre eux. Leur procès s'ouvre aujourd'hui à Atlanta et les autorités locales sont aussi dans le viseur, Sébastien Paour.
Ce 23 février 2020, Emaud Arbery fait son jogging dans le quartier résidentiel de Satilla Shores, à Brunswick. Mais trois hommes blancs se lancent à sa poursuite. Leurs avocats expliquent aujourd'hui qu'ils l'ont pris pour un cambrioleur qui dévalisait les chantiers voisins. Arbery, qui n'est pas armé, est tué par balle, mais pendant plus de deux mois, il n'y a aucune arrestation. Jusqu'à une vidéo rapidement virale obtenue ici par le Washington Post. On y voit le jeune homme courir sur une route, tenter de contourner un pick-up avant de se débattre contre un homme blanc qui tient un fusil. On entend trois coups de feu, la bagarre s'arrête, le jeune homme s'écroule. Celui qui a tiré s'appelle Travis McMichael, il a 35 ans. C'est son père, Gregory, qui est dans le pick-up, un ancien inspecteur de police de 65 ans. Ils sont inculpés de meurtre et de fausse arrestation, avec un troisième homme qui les a aidés à stopper Arbery. Une procureure de l'État de Géorgie est également poursuivie pour entrave à l'enquête, procédure rarissime aux États-Unis. Elle connaît Gregory McMichael, qui a travaillé plusieurs années pour ses services, et elle est accusée d'avoir demandé aux policiers chargés de l'enquête de ne pas arrêter son fils, l'auteur des coups de feu fatals à Arbery. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Autre procès, celui-là au Royaume-Uni, deux ans et demi après le crash du petit avion qui emmenait le footballeur Emiliano Sala de Nantes à Cardiff. L'appareil s'était abîmé dans la Manche, le corps du joueur avait été retrouvé au fond de la mer. Eh bien, peut-être en saura-t-on enfin davantage sur les circonstances. Un tribunal gallois juge à partir d'aujourd'hui le propriétaire de l'avion, qui aurait dû d'ailleurs piloter l'appareil ce jour-là. Il va devoir expliquer notamment pourquoi il l'avait confié à un collègue dont la licence de pilotage était expirée. Vous êtes ingénieur, très qualifié, vous cherchez du travail, Facebook vous tend les bras. Le géant californien annonce 10 000 créations de postes en Europe dans les 5 ans qui viennent. Des emplois pour développer le métaverse, une sorte de monde numérique parallèle. Boris Allier va tout nous expliquer.
Pour le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, le métaverse, c'est l'avenir d'Internet. Des mondes virtuels en 3 dimensions auxquels on accède grâce à des lunettes de réalité virtuelle pour travailler entre collègues, jouer avec ses amis ou profiter de concerts depuis chez soi. Pour y arriver, les géants du numérique investissent énormément. Facebook annonce donc un plan de création de 10 000 nouveaux emplois hautement qualifiés sur les 5 prochaines années au sein de l'Union européenne. Ces ingénieurs seront chargés de développer les outils pour accéder à ces univers parallèles. C'est donc un coup d'accélérateur pour le groupe californien aux 50 000 salariés, dont 10 000 travaillent déjà dans les laboratoires de réalité virtuelle. L'entreprise de Mark Zuckerberg a également également annoncé le mois dernier un investissement de 50 millions de dollars dans des programmes de recherche autour de ces nouvelles technologies.
Boris Allier, les inspecteurs du permis de conduire en grève aujourd'hui à l'appel de Force ouvrière. Le syndicat dénonce, je cite, la privatisation de l'examen du permis et réclame des recrutements supplémentaires. Avant son déploiement sur le terrain dès demain, la première promotion de la police municipale parisienne est présentée officiellement aujourd'hui. Paris était jusque-là, avec Brest, la seule grande ville française à ne pas disposer de policiers municipaux. Les 150 premiers agents seront donc intronisés sur le parvis de l'hôtel de ville tout à l'heure. La mairie en promet 3600 d'ici 5 ans. Ils ne seront pas dotés d'armes létales.
Paris qui cherche toujours, Alexis, à boucler le budget des JO de 2024.
7 milliards d'euros qu'il faut financer à 97% par des fonds privés. Et à moins de 3 ans de l'échéance, on est loin du but. Le comité d'organisation cherche encore de gros sponsors. Une dizaine seulement ont accepté pour l'instant de participer, Guillaume Batin.
Une banque, un fournisseur d'électricité, un opérateur téléphonique ou un laboratoire pharmaceutique. Ces 10 entreprises apportent plus de 600 millions d'euros. Il en manque encore 400 que Marlène Mazur, directrice commerciale de Paris 2024, va devoir aller chercher.
Il faut voir les jeux comme une source de dépenses, il faut voir les jeux comme une opportunité de répondre à des marchés des jeux, déjà en premier lieu, d'ouvrir de nouveaux marchés, de collaborer avec l'ensemble des prestataires qui vont livrer les jeux. Donc on est dans les temps de passage et il nous reste 3 ans pour aller chercher le dernier tiers.
Paris 2024 n'est pas en retard, mais plusieurs facteurs handicapants rendent les négociations difficiles. Vincent Chaudel est économiste du sport.
Jusqu'ici, dans les Jeux Olympiques, vous étiez tranquille pour la vente des anneaux. Sauf que on connaît déjà celui qui va les utiliser en 2028, qui est Los Angeles, qui a pu travailler auprès des grands annonceurs américains. La deuxième chose, c'est la Covid, qui a décalé les Jeux de Tokyo, qui fait que les annonceurs des Jeux Olympiques de Paris 2024 vont pouvoir utiliser 3 ans les anneaux et pas 4. L'exploitation des anneaux, c'est maintenant.
Paris 2024 fera d'autres annonces d'ici à la fin de l'année. Des pourparlers sont notamment en cours avec les grandes entreprises françaises du luxe qui n'ont pas trop souffert pendant la crise sanitaire.
Et avant 2024, rendez-vous à Pékin en février prochain pour les Jeux d'hiver. À 4 mois de ces JO, la flamme olympique sera allumée aujourd'hui en Grèce, dans le stade antique d'Olympie, une nouvelle fois bien vide en raison de la crise sanitaire. Mais la tradition, elle, sera respectée. La flamme doit être allumée par la réflexion des rayons du soleil sur un miroir.
Alexis Morel, merci.